Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 7 du podcast Le Safety, votre podcast NFL signé Dunk Hebdo, de retour après une petite pause estivale. Lui, il n'a pas pris de pause et il a continué à suivre la NFL dans cet été très très chaud. C'est Alan PFF. Comment ça va, Alan ?
Salut Ben, salut tout le monde. Ça va très bien, il s'est passé pas mal de trucs, donc j'avais hâte qu'on se retrouve pour en parler.
T'as vu que cette fois-ci, j'ai attendu 20 secondes pour te dire Alan PFF,
ouais.
Parce que on va avoir pas mal de débats pro football focus cette semaine entre payer des running backs, investir dans des safety. Il y a pas mal de choses à discuter parce que oui, tu l'as dit, il y a eu pas mal d'informations qui sont sorties ces dernières semaines. On va parler donc grosso aujourd'hui entre la signature du contrat gargantuesque de Patrick Mahomes, de son coéquipier Chris Jones, ou des pass rushers Joey Bosa et Myles Garrett, sans oublier Derrick Henry. Et alors là, si vous connaissez, si vous avez déjà écouté ce podcast, vous savez qu'un running back payé, ça va faire discuter forcément. Et puis aussi, on va discuter en premier lieu de Jamal Adams, dont le feuilleton a enfin était terminé, il n'est plus un membre des New York Jets, il arrive du côté des Seattle Seahawks. Et puis on finira, parce que parfois les non-actions parlent plus que les actions, par le cas Dak Prescott, qui n'est toujours pas signé par les Cowboys de Jerry Jones. Avant ça, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous suivre sur les différentes plateformes de podcast. Puis nous, on se retrouve dans quelques secondes pour ce nouvel épisode du Safety. Enfin, Alan, enfin, après des mois, voire des années, j'ai honnêtement l'impression que depuis qu'il est arrivé chez les Jets, Jamal Adams était un peu en froid avec sa direction. En tout cas, le voilà arrivé du côté de Seattle, l'autre côté des États-Unis. Alors, je rappelle rapidement les détails de ce trade. Les Jets de New York obtiennent le premier choix de premier tour de draft 2021 et 2022 des Seahawks et un troisième tour 2021. En plus du safety Bradley McDougal, les Seahawks de leur côté reçoivent Jamal Adams et un quatrième tour de 2022. Alan, je vais pas tourner autour du pot, investir deux premiers tours dans un safety, est-ce que c'est pas un peu trop?
C'est une excellente question. C'est une question qui me turlupine depuis une semaine, depuis que tu me l'as posée quand on parlait tous les deux juste après l'annonce du trade. Déjà, je pense, c'est deux premiers tours, mais on peut tous les deux se dire, je pense, les Seahawks seront bons durant les deux années. Donc, ça sera un pic entre, bon, 20 et 32 peut-être. C'est pas la même chose qu'un pic top 10, déjà. Après, c'est vrai que c'est haut, mais moi, en fait, en général, je dirais que c'est beaucoup pour un safety, mais je dirais que vu la technique et la tactique à la draft des Seahawks, qui est de souvent reculer, accumuler les choix, bah c'est peut-être pas forcément une chose si négative que ça, si horrible que ça, parce que ils ont réussi, ils ont à démontrer qu'ils pouvaient trouver des joueurs plus tard dans la draft pour leur système. Là où Jamal Adams, c'est un joueur qui est insérable dans tous les systèmes et qui va, je pense, vraiment fleurir dans la défense des Seahawks. Donc c'est beaucoup si on étudie la NFL dans sa globalité, si on regarde tous les trades à chaque fois, on dit deux firsts, c'est beaucoup. Mais déjà, c'est la norme maintenant. Pour les superstars, pas forcément les safety, mais pour les superstars, les Jalen Ramsey, les Khalil Mack, c'est des postes différents, plus importants, je suis d'accord, mais c'est des superstars. Donc pour Adam, c'est parti pour ce qu'il faut donner aujourd'hui pour une superstar. Et ensuite, je pense que pour les Seahawks, c'est leur tactique d'assemblage d'équipe, c'est moins problématique que pour d'autres, en fait.
Ouais, ce que tu sous-entends par là, c'est que de base, les premiers tours chez les Seahawks sont peut-être pas si bien utilisés que les tours de draft un peu plus loin.
Ouais.
On sait qu'ils ont construit ce qu'on peut apparenter plus ou moins à une dynastie, en tout cas une très forte équipe sur la longueur, grâce à des choix du deuxième, troisième tour et un peu plus loin, et pas forcément des choix du premier tour. C'est vrai que si on regarde leur historique récent, à part Earl Thomas et Bruce Irvin peut-être dans une moindre mesure, Russell Wilson n'est pas un premier tour de draft, Bobby Wagner n'est pas un premier tour de draft, Cam Chancellor n'était pas un premier tour de draft, pareil pour Richard Sherman, enfin voilà, les joueurs marquants n'étaient pas des hauts choix de draft, KJ Wright la même chose, enfin voilà. Par rapport à ce que tu as dit, c'est vrai que récemment on voit deux premiers tours de draft échangés pour, c'est arrivé pour de nombreuses superstars. Je lisais un article qui expliquait que c'est arrivé 8 fois depuis le début du siècle. Et c'est vrai qu'il y a une période, on va dire, milieu des années 2000, début des années 2010, où c'est un peu moins arrivé. Et récemment, on a eu Jalen Ramsey, Khalil Mack, Laremy Tunsil aussi, qui est parti pour deux premiers tours de draft. C'est vrai que dans chacun des cas, on était face à un joueur qui était un des meilleurs à sa position. C'est un peu le cas de Jamal Adams. Pour répondre à la question que je t'ai posée, je pense que le trade se défend. Ça reste cher. Je maintiens que ça reste cher. Surtout qu'on peut y revenir. On en avait parlé quand on avait fait notre classement des équipes dans la conférence NFC derrière les 49ers et les Saints. Le principal problème des Seahawks, ça semblait pas être le backfield défensif, mais plutôt le pass rush. Et là où on le sait, Jamal Adams peut être aligné, parce qu'il peut être aligné absolument partout. C'est un joueur qui, je lisais ça me faisait rigoler. Jamal Adams a 6 sacs et demi la saison dernière. Il aurait été le meilleur saqueur des Seahawks avec 6 sacs et demi. Donc c'est un joueur qui peut saquer. Je suis pas sûr que ça règle les problèmes. Après, et c'est là où ça va te plaire, je te relance là-dessus. Si on est dans une approche, il faut plutôt blinder le backfield défensif. Et ben alors, je comprends le choix de Jamal Adams, qui est bien sûr, en plus de ça, très polyvalent.
Ouais, c'est ça. Il était limite de facto le meilleur pass rusher des Jets. Ça veut aussi dire que le pass rush des Jets était mauvais.
Et voilà, anémique.
Ça fait très longtemps qu'ils ont un problème là-dessus. Ils ont toujours eu un bon intérieur de ligne, mais le pass rush est mauvais. Ouais, il peut être aligné partout. Après, moi, la chose que je me demandais, c'est, on connaît Seattle, le type de défense. C'est pas des... Ils bougent pas leurs joueurs, ils laissent pas une liberté exceptionnelle partout. Moi, je pense qu'en fait, il va être simplement, voilà, il va jouer dans la box à côté des deux gros linebackers avec les trois autres qui seront derrière, donc les deux corners et Quandre Diggs. C'est très schématique, c'est une défense qui a beaucoup marché, mais c'est une défense qui a besoin de pass rush. Moi, je me rappelle quand ils étaient super bons, les Seahawks 2013, 2014, même 2015. Ils n'avaient pas forcément des gros noms, même si Michael Bennett, pour moi, ça a toujours été un très très fort joueur. Mais ils avaient une multitude de pass rush qui pouvaient se relayer. Et là, en fait, c'est peut-être en termes de profondeur et de niveau, parce qu'ils ont perdu Clowney. Donc, en termes de niveau pur et de nombre, le pass rush est un peu moins bon. Et c'est là où c'est un type de défense, je pense, qui a plus besoin d'un super pass rush. Parce que avec les couvertures de zone derrière, par exemple les 49ers, ça marche très bien. Les Chargers aussi, ils jouent ce type de défense-là. Donc cette défense créée par les Seahawks, parce qu'ils ont un très bon pass rush. Là où Atlanta joue cette défense-là, mais comme ils n'ont pas de pass rush, ils se font défoncer. Et donc c'est assez compliqué. Moi, j'aurais bien aimé, je sais pas comme toi, je pense qu'ils comptent aussi sur la progression interne des joueurs qu'ils ont draftés. Donc beaucoup des pass rushers au premier tour, donc il faudrait pour eux que ces joueurs-là prennent un nouvel élan, parce qu'ils vont vraiment en avoir besoin, surtout sans Clowney.
Par rapport à ce que tu as dit, par rapport au schéma défensif des Seahawks, c'est très intéressant. Je lisais un article sur The Athletic qui expliquait que, en gros, là, donc, le schéma des Seahawks, Jamal Adams est tellement fort, il pourrait jouer pratiquement à n'importe quelle position et être élite. C'est vrai qu'il peut prendre le rôle d'un Cam Chancellor, et c'est un peu ce qu'on lui promet. Après, je pense que ce qui est vraiment intéressant du côté des Seahawks, c'est que cette équipe, et l'article le mentionnait, ce dont elle manquait, et principalement en défense, c'est du talent. C'est tout simplement du talent pur et dur.
Pur.
C'était une défense de milieu de tableau qui était portée par un Russell Wilson fabuleux, et donc l'article récapitulait les moments où c'est passé juste dernièrement pour les Seahawks. C'est des moments où la défense a dû faire un stop parfois, et ils n'avaient pas peut-être le joueur décisif capable de faire une action de génie à la Tyrann Mathieu, si on doit citer les safety, et capable de sortir l'action qui va changer le sens d'un match. Ils n'avaient peut-être pas ça, et Jamal Adams est ce joueur-là. Donc par rapport à son implantation, je m'inquiète pas trop. C'est vrai que je pense quand même qu'ils croient beaucoup à leur investissement à la draft dans les pass rushers et sur la ligne défensive, mais ça reste un peu faible, surtout quand tes ennemis proclamés, c'est les deux grosses franchises dont j'ai cité le nom plus tôt, les Saints et les 49ers, qui ont deux grosses lignes.
Ouais. C'est, ils ont besoin de mettre toujours de la pression parce qu'il faut vraiment perturber le QB. C'est le genre de défense. Ils jouent beaucoup avec les yeux sur le QB. Ils veulent créer des turnovers et tout ça. Mais pour ça, il faut vraiment mettre de la pression parce que sinon, les coordinateurs offensifs ont compris maintenant comment tu pouvais contourner cette défense-là. Ça fait quasiment 8 ans, 8-9 ans qu'elles sont implantées, que les Seahawks sont implantées en NFL. Alors, bien sûr, il y a des variances, hein. Ça change, il y a des types de couvertures qui diffèrent. Mais ça a été prouvé que voilà, même si t'as beaucoup de talent derrière et que t'as des joueurs qui sont longs, qui savent bien jouer les couvertures et tout ça, il faut vraiment mettre de la pression. Peut-être plus que dans d'autres systèmes où c'est du homme à homme, ou si jamais t'es dans du pur homme à homme derrière et que t'as des très bons corners, bah voilà, t'as besoin d'un pass rush qui peut-être gagnera, le fera sur un gain de temps ou sur autre chose. Là, t'as besoin vraiment de joueurs qui cassent le jeu sur la ligne pour créer tout ça. Et c'est vrai que sans Clowney, l'expérience Ziggy Ansah, ça n'a pas marché. Ça fait longtemps qu'ils cherchent peut-être des réponses sur le pass rush. Donc on verra. Je crois qu'ils ont repris Bruce Irvin. À voir. Mais ouais, il va falloir de la progression de leurs jeunes.
Après, au niveau du backfield défensif, tu avais déjà cité son nom dans l'épisode auquel je parle. Quandre Diggs, qui est arrivé de Détroit, qui avait fait des bonnes choses quand il était sur le terrain, la défense avait augmenté, avait passé un palier. Tu rajoutes Jamal Adams. Alors, je vais pas faire le blasphème de comparer ça à ce qui se passait plus tôt, j'allais dire dans la décennie, non, parce qu'on est dans une nouvelle décennie, ce qui se passait il y a quelques années du côté des Seahawks, mais on a un backfield défensif qui devient très fort, en fait. On a toujours aussi un corps de linebacker très fort aussi. Oui, il va falloir trouver des solutions sur l'avant de la ligne, mais à voir si l'équipe pourra le faire. À part si tu as quelque chose à rajouter peut-être sur les Seahawks, on peut passer du côté des Jets.
Ouais, parce que
j'ai l'impression qu'on parle très peu de ce trade du côté Jets, en fait, quand j'écoute les différentes émissions, je lis les articles, etc. Je trouve personnellement qu'ils s'en sortent très bien, parce que, encore une fois, deux first round picks, deux choix du premier tour pour un safety qui en plus ne cachait même pas ses envies de départ. Enfin, tout le monde savait qu'il voulait s'en aller de New York. Mm. C'est très très solide.
Qui a insulté le proprio, qui a insulté le GM, qui a insulté le coach. Ouais, tu t'en sors très bien. Tu t'en sors vraiment très bien. Et c'était ce qu'il y avait de mieux à faire, c'était ce qu'il fallait faire, je crois. Faut saluer ça. Je pense que de ce qui est sorti un peu, hein, ils ont reçu autant parce qu'en gros, ils ont réussi à dire aux Seahawks qu'ils allaient les changer. Je crois que c'était les 49ers qui étaient aussi dans le lot. Et en gros, les Seahawks ont dit on est prêt à mettre un premier tour en plus, pour qu'il aille aux 49ers et que ce soit nous qui le récupérons. J'ai lu ça, je sais pas si c'est vrai, si c'est du bluff, mais ils ont bien joué leur carte alors qu'ils n'en avaient pas beaucoup. Parce que quand t'as un joueur qui proclame qu'il veut partir et qu'il est proche de... qui draft 2016, donc proche de potentiellement être testé le marché, c'est ils ont le mieux qu'ils ont pu. Donc ouais, je suis très bien pour eux. Après voilà, hein, le problème des Jets, c'est de bien drafter aussi. Donc on verra.
Mmh. Ouais, c'est le problème. Après, c'est positif pour eux parce que... Alors on sait, Sam Darnold, il est dans sa troisième année, mais... Bon, faut pas se faire d'illusions, l'effectif a quand même encore des gros trous. Il y a beaucoup de postes à adresser et avoir deux choix du premier tour, même si, comme tu l'as dit, ils seront très probablement à la fin du premier tour, c'est toujours positif d'avoir ces choix en plus parce que si, alors là, je joue à la Madame Irma, mais si en plus, du côté des Jets, on réalise encore des saisons difficiles, ça ferait quand même potentiellement trois choix dans le top 40.
Ouais.
Donc ça devient super intéressant de leur côté. Ensuite, on verra, mais il n'empêche que moi, ça me fait toujours rigoler que sur Twitter, il y a toujours une petite hype Jets qui prend parfois. On verra, mais même si on devait pas en parler, mais avec les forfaits qui s'accumulent du côté des Patriots et les Bills qui paraissent favoris, mais il y a toujours l'incertitude, Josh Allen en a déjà parlé. Il pourrait, je dis pas gagner la division, mais il pourrait accrocher quelques matchs par-ci par-là. Après, ça reste une équipe qui est toujours en construction. Je pense qu'on est d'accord là-dessus.
Ouais, totalement. Totalement.
On peut enchaîner et parler gros sous, très gros sous même, parce que difficile de pas parler de la prolongation du contrat massif historique, tous les adjectifs que tu veux, Alan, conclu entre les Kansas City Chiefs et Patrick Mahomes. La franchise et le joueur sont donc liés pour les 12 prochaines années. Et pour un montant qui pourrait dépasser, c'est ça qui a fait un peu la une de tous les journaux, même dans la presse, j'ai vu des articles dans la presse, entre guillemets, généraliste, même ici, dans l'Hexagone, dépasser les 500 millions de dollars. Les champions en titre, ils se sont pas arrêtés là, puisqu'ils ont également conclu une extension avec le defensive tackle Chris Jones, qui était lui annoncé partant. C'était un peu une petite surprise de le voir re-signer. Un peu moins gargantuesque que celle-ci d'extension 4 ans, 85 millions. Alan, encore une fois, je te mets direct dans la sauce, comme diraient les jeunes. Est-ce qu'on n'a pas là tous les ingrédients d'un back-to-back, voire d'une dynastie?
Je sens juste avec Mahomes, hein, déjà. Juste avec Mahomes, hein, c'est quand même terrible de se dire qu'un contrat un demi-milliard... Enfin, il y a ça aussi, tout n'est pas garanti, il faut voir ça aussi. Certains disent que même il a pris moins que ce qu'il pourrait prendre sur certaines portions du deal et tout ça. Je suis pas du tout mathématicien, mais c'est vrai, quand on regarde le deal, paraît gargantuesque au début, et après tu le regardes, en fait, il, année par année tout ça, il paraît un petit peu moins gargantuesque. Mais oui, c'est le début de quelque chose. Moi, je pensais qu'ils allaient trader Chris Jones avant de le perdre, essayer de récupérer ce qu'ils pouvaient. C'est un joueur qui, je pense, aurait pu valoir un premier tour de draft, hein, parce que c'est un des trois meilleurs defensive tackles derrière Aaron Donald. Donc, c'est un joueur très très important pour eux. C'est vraiment le meilleur joueur de leur défense avec Mathieu. Donc, qu'ils le gardent, c'est vraiment excellent pour eux. Je pensais pas qu'ils allaient le garder. Donc, la défense aurait pris un coup. Ils arrivent à le garder sur un contrat avec qui est pas totalement garanti, 75% à peu près. Et puis Mahomes qui te permet, juste en l'ayant dans ton équipe, d'être un, comme quand il y avait Aaron Rodgers entre 2011 et 2016 aux Packers. C'est-à-dire que t'as Aaron Rodgers, t'as vêtements, t'as Patrick Mahomes, t'es candidat pour aller au final de conférence, je dirais. Donc, à partir de là, c'est très compliqué.
Surtout en AFC.
À voir, voilà, prochainement, comment ils feront face à, au prochain qu'il faudra payer, les choix. Je pense que Sammy Watkins, son temps est compté, ça pourra libérer un peu d'argent. Les prochains sur la liste seront Tyreek Hill et potentiellement Kelsey, même si on a discuté, toi et moi, des fois. Mahomes, il est tellement fort, je pense qu'il a peut-être pas besoin d'avoir autant d'armes pour être aussi fort. Il sera fort avec des joueurs un petit peu moins forts, et ça sera surtout ça important pour les Chiefs dans les prochaines années, parce qu'ils pourront pas garder tout le monde. Là, ils ont fait des choix forts qui en font favoris pour un repeat, c'est sûr.
Totalement. Je vais peut-être commencer par le point un peu plus barbant, celui un peu technique. C'est vrai que t'as parlé de ce contrat. Alors, je suis pas non plus mathématicien, je fais que gloser, répéter ce qu'on peut dire d'autre. C'est vrai que la structure du contrat, d'après les spécialistes un peu du cap, fait que on est plus vers un contrat qui ressemble à quelque chose comme 180 millions sur 6 ans. C'est-à-dire que à la fin de la saison 2025, et alors qu'à la fin de la saison 2025, il y a encore presque 320 millions à payer, il pourrait avoir un nouveau contrat. Enfin, il est très improbable de voir Mahomes rester au Chiefs jusqu'en 2031 sous les termes de ce contrat-là. Parce que c'est Bill Barnwell, encore une fois, d'ESPN, qui l'expliquait. Notamment, à ce moment-là, il y aura une renégociation des droits TV. Et on sait que dans ce genre de cas, le salary cap explose. Donc, si Mahomes continue d'être, et c'est fort probable à part blessure, continue d'être un joueur majeur de la NFL, on pense qu'il va pas garder un contrat qui sera daté d'un autre environnement, d'une autre histoire presque. Donc, ce qui est sûr, c'est que Mahomes sera chez les Chiefs jusqu'au milieu de cette décennie, voire plus. Et d'ailleurs, par exemple, quand tu lis l'analyse de contrat, je manie l'euphémisme, il y a que 140 millions garantis. Garantie contre blessure. Donc voilà. Après, maintenant, refermer cette page un peu technique, c'est vrai que, après, c'était une surprise pour personne, on avait eu déjà des bruits, etc., que les Chiefs voulaient signer Mahomes. C'est sûr que, et c'est notre cas à tous les deux, hein, quand t'es fan d'une équipe en AFC, ça te pose des questions. Parce que, de 1, on parle d'un joueur qui est allé en match de finale de conf ses deux premières années en tant que titulaire, qui perd un des deux, enfin ça se passe à rien, tu peux le dire autant que moi, enfin ça se passe à rien du tout. Il fait une campagne de playoff en 2020 lunaire, hein, je pense qu'on peut parler dans ces termes-là, et il a avec lui une équipe qui revient dans un contexte particulier et qui en plus, mis à part, tu l'as dit, quelques éléments comme un Travis Kelce, la plupart des éléments majeurs de l'équipe sont signés minimum jusqu'à 2022. Donc on est là sur minimum deux saisons où une partie du cœur de l'effectif ne va pas changer. Ça ressemble quand même à des immenses favoris, si je ne me trompe pas.
Totalement. Totalement, et puis c'est... moi c'est juste, après je te relance, hein, mais il a au Mahomes n'est pas encore au niveau, je pense, à son prime. Il y a ça aussi. Hein.
Ça fait très peur de se dire ça.
Ouais, ça fait très peur, les phrases. Alors peut-être qu'il joue avec les médias, mais quand il dit « ça fait que très peu de temps que j'arrive vraiment à comprendre et à lire les défenses », moi, ça me fait flipper, hein, personnellement. Mais il y a du jeu avec les médias, il y a tout ça aussi. Il y avait aussi, quand sa première année, tout lui réussissait, on ne savait pas comment le défendre, donc ça aussi, c'était en saison d'avantage. Mais il va progresser. Hein. Donc, à voir, il y a... Ça ressemble à ça. Ils ont à tous les postes clés, ils ont des joueurs élites ou proches d'un très bon niveau, sauf peut-être le poste de corner, comme j'en parlais. Mais ouais, ça ressemble à ça. C'est de toute façon, et en plus, ils sont bien coachés, ils sont sérieux depuis longtemps. Quand ça City, juste, ils ont rajouté Mahomes à la place d'Alex Smith et ça a tout changé.
C'est sûr, sur la décennie précédente, pardon, c'est une des équipes les plus solides en AFC. Déjà, c'est ça en plus. C'est pas comme si on donnait un talent générationnel à une franchise dysfonctionnelle. C'est qu'on le donne à une franchise qui en plus est bien coachée avec un coach Hall of Famer, avec, bref, le mariage paraissait parfait. C'est arrivé au bon moment. Je pense que le reste de l'AFC tremble et. On va faire des previews sur cette saison qui s'annonce extrêmement bizarre. On va pas les griller, mais on faisait ce petit jeu de deviner qui était derrière Ravens Chiefs en AFC. J'ai bien peur qu'il y a encore une grosse marge entre les Ravens et les Chiefs. Que vraiment, cette équipe n'a qu'à progresser. Et en plus, il y a eu des ajouts de jeunes talents, Mecole Hardman, etc. Enfin, bref. Clyde Edwards, ton ami sélectionné au premier tour en running back. J'aime toujours là, un petit peu le piquer avec ce genre de truc.
Ouais.
C'est une de mes passions. Je suis un peu. C'est pas que j'ai rien à dire, c'est juste que le meilleur joueur de la ligue a re-signé chez le champion en titre pour. Une longue période et l'intégralité de la NFL devrait trembler.
Totalement. Il n'y a pas de négatif ou de take inverse à dire, en fait.
C'est ça, c'est qu'il n'y a même pas... Enfin, le concept de trop payer Mahomes n'existe même pas pour moi.
Non.
T'as de loin le meilleur quarterback de la ligue qui est tout jeune, qui va entrer dans sa quatrième saison. Il n'y a pas de concept de surpayer pour lui. Enfin, on lui aurait offert l'état du Kansas, j'aurais estimé que c'était encore, c'était plutôt une bonne affaire. Donc non, il n'y a pas de, ça passe. On va faire un truc, Alan, c'est que j'adore faire ça, c'est qu'on va pas respecter la trame, on va direct aller du côté de Dak Prescott.
Okay.
Parce que Dak Prescott voit un autre jeune quarterback signé, lui qui est toujours en imbroglio avec les Cowboys et Jerry Jones. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait avec Dak Prescott? Parce qu'on est au début du mois d'août, au moment où on enregistre. Dak Prescott va jouer sous le franchise tag. Il n'est toujours pas signé.
Ouais.
C'est surréaliste, cette situation qui, un peu à l'image de ce qui s'est passé avec Jamal Adams, j'ai l'impression, dure depuis un an et demi.
Ouais, c'est long. Il y a des moments où je suis ça avec attention, d'autres où je ne suis pas, parce que plein de choses qui sortent tout le temps... Des présumés refus d'offres. Finalement, après, il n'aurait pas jamais reçu l'offre présumée. Voilà. Je comprends pas ce que font les Cowboys, personnellement. Après, est-ce que les Cowboys ont confiance en eux? et dans le fait qu'ils peuvent potentiellement, c'est bête hein, ce que je dis parce que je le pense pas, trouver un remplaçant à Dak Prescott à la draft ou autre part, bah ça pourrait expliquer le non-mouvement. Parce qu'en attendant, tu t'aides pas. Il y a bien un truc qui a été montré, c'est qu'il faut pas attendre parce que plus tu attends, plus le prix monte. Donc, faudrait pas que Deshaun Watson c'est une extension avant Dak Prescott par exemple. Et puis les Dak Prescott, il a la draft de Goff, de Wentz, que des mecs ont déjà signé. Mahomes, ça c'est la draft d'après, il vient de signer. Watson va sûrement signer. Donc, je comprends pas. Plus tu attends, plus le prix monte. Et le prix est déjà monté très très haut. Donc, je suis comme toi, je comprends pas Jerry Jones et les Cowboys sur le coup.
Et puis là, alors c'est quelque chose que j'aime bien mettre en avant en NFL comme en NBA. Et en NFL, c'est d'autant plus vrai avec un quarterback, selon moi, la relation entre la franchise et le joueur. Quand ça fait des années que tu es en bataille pour un contrat, alors certes, on sait qu'il y a l'aspect business toujours dans les sports américains, mais je pense que ça laisse des traces toujours. Et que ça peut être un truc qui, plus tard, ça peut semer quelques petites graines qui, plus tard, seront pas forcément positives pour la franchise. T'as eu raison de dire un truc, c'est que on a un peu des infos contraires. Alors, bien sûr, là, on sait que les deux parties essayent de manipuler un peu les médias et ce qui sort. C'est pas très surprenant. Après, encore une fois, en me renseignant, on avait plus l'impression que c'est la durée du contrat qui faisait question. C'est-à-dire que du côté des Cowboys, on voudra un contrat plus long que Prescott. Prescott, qui gomme d'autres quarterbacks, doit aussi anticiper qu'à un moment, le cap va exploser, même si en ce moment, à cause du contexte, il risque de un petit peu se rétracter. Il y a la question de la durée. Après, moi, côté Cowboys, ce que je me dis, c'est que là, tu es quand même dans un régime de perpétuelle incertitude. C'est-à-dire que si tu continues à le faire jouer sur le cap, il y a un moment où il va peut-être refuser, et l'idée selon laquelle tu penses vraiment être capable de remplacer, on ne fait pas de classement ici, mais un top 10 quarterback NFL du jour au lendemain, ça me paraît lunaire en fait, quand on sait à quel point c'est une position difficile à remplacer.
Ouais, totalement. Et ouais, j'ai pas grand chose de plus à dire là-dessus. Les infos sortent, il y a des infos contraires, il y a des pourparlers entamés. Il y a du jeu de poker menteur sur la cinquième année, l'option, les Cowboys veulent plus, lui il veut pouvoir sortir du contrat plus tôt, comme tu l'as dit, pour pouvoir renégocier à un moment, ou aller ailleurs. Pour moi, c'est pas du tout le même cas qu'un Jared Goff, par exemple. Tu vois, pour moi, les Rams, ils ont pas été, comment on appelle ça, réalistes avec Jared Goff. Je pense qu'ils auraient pu trouver un remplaçant à Jared Goff. Tu vois, la draft ou tout ce comme ça, tout avec McVay et tout ça. Là, Dak Prescott, il a quand même montré depuis quelques années que franchement, il est très solide. On en pense qu'on en veut. Comme tu l'as dit, top 10, ouais, c'est ça, je dirais entre 8 et 12 selon les classements, selon les saisons. C'est un quarterback pas du premier échelon, mais de la première moitié des quarterbacks NFL. Donc après, je dirais, il faut y aller, il faut lui faire confiance, il faut l'installer. Et puis, il faut pas avoir peur de ça, parce que plus t'attends, comme je dis, plus t'attends, plus tu vas potentiellement le fâcher lui, tu vas fâcher la relation, et tu vas commander plus de dollars. Donc, je comprends pas, franchement, je comprends pas Jerry Jones sur le coup. Est-ce que Prescott est prêt à jouer sans extension de ça? Il y a des choses qui sont sorties là-dessus. Beaucoup de poker menteurs, comme je l'ai dit. Je suis assez dubitatif, j'ai pas grand chose à dire sur le sujet en fait, je suis juste en attente que voilà, il signe et qu'on n'en parle plus en fait.
Alors on va peut-être rester dans le Texas rapidement parce que beaucoup de gens se demandent si le contrat de Mahomes aura un impact sur les autres jeunes quarterbacks. Et si on parle autres jeunes quarterbacks, difficile de pas mentionner Deshaun Watson, tu l'as fait. Est-ce que tu penses que ça aura un impact sur Deshaun Watson? Moi clairement. Et c'est pas pour rien que j'ai essayé de mettre l'accent sur cette relation de confiance, je pense, entre la franchise et Patrick Mahomes. Je pense qu'elle n'existe pas vraiment entre Deshaun Watson et le front office des Texans. Ce qui m'amène à penser que Deshaun Watson va prolonger, c'est dans son intérêt, mais je pense pas sur une longue période. Je pense qu'il va quand même... Clairement, il signera pas sur 10 ans. Il va pas faire confiance à ce front office sur une aussi grande période.
Okay.
Je pense qu'il va peut-être leur donner 2-3 ans pour prouver « Ok ». Là, maintenant, vous avez votre franchise quarterback. D'ailleurs, je t'ai pas coupé quand t'en as parlé, mais c'est assez marrant. T'as dit, ah, quand une superstar se fait échanger, le prix, c'est deux premiers tours. Visiblement, à part quand elle part des Texans. Parce que DeAndre Hopkins et Jadeveon Clooney, c'était pas deux second tours. Quand tu réfléchis, quand tu vois DeAndre Hopkins, c'est un joueur que je porte dans mon cœur, et Jadeveon Clooney, c'est un scandale qu'ils ne sortent pas avec minimum trois premiers tours de draft de ces gens-là. Bref, on a assez parlé là-dessus. Après tous ces mouvements-là, je vois bien Deshaun Watson, certes, accepter le contrat, mais se dire, je me laisse une petite porte de sortie dans 2-3 ans, pour voir si vous allez me donner des gages.
Je vois. La situation et le sérieux du front office des Texans n'est pas celui des Chiefs, n'est même pas celui des Cowboys. Hein. Moi, je comprendrais que Prescott veuille s'installer dans le futur des Cowboys. Hein. Franchement, l'équipe est talentueuse, nouveau staff. Ils n'ont pas peur de payer ou des choses comme ça. Pas peur de trader pour aller chercher des stars aussi. Donc, ouais. Moi, je pense qu'il faut pas que pour les Cowboys, il faut pas que Watson signe avant Prescott. Vraiment, parce qu'il va prendre de l'argent à l'année, je veux dire, à l'année Watson en annuel. Et dans ce qu'on parlait en termes annuels, c'est quoi, c'est les Prescott aurait refusé 32,5 ou 33, c'est ça, quasiment 35. Donc après, c'est la question, est-ce que, tu vois, c'est terrible, est-ce que les Cowboys veulent du plus long terme mais à moins d'argent par année, là où Prescott veut peut-être 4 ans avec 40, même plus, tu vois, il veut, en fait la somme d'argent serait la même, mais vu que Prescott voudrait du plus court terme, ça ferait du plus d'argent par année. Et donc, moi je pense surtout, comme je te l'ai dit, faut pas, pour Dallas, ce serait une catastrophe que Watson arrive à une extension dans le mois d'août, là, ou début septembre. Et avec Prescott pas signé, je pense.
Mais du côté des Cowboys, je trouve surtout que la question, elle se pose pas tellement en année. La question se pose sous le... Enfin, clairement, tu veux, quand t'as un quarterback, un franchise quarterback, tu veux le sécuriser pour le plus d'années possible. Et certes, il y a peut-être une différence entre ce que offrent les Cowboys et ce que offrent, ce qu'espère, ce que veut le camp Prescott, mais il y a un moment où c'est pas une situation viable pour une franchise qui se veut comme un des poids lourds de la NFC, d'avoir d'année en année l'incertitude au poste de quarterback. Moi, ça me paraît surréaliste, ça. Et d'ailleurs, je me demande même si la potentielle extension d'un Watson aura un impact sur un Prescott. Je pense vraiment que on a deux camps qui campent justement sur leur position. Et c'est surtout, je vais pas dire j'en veux, mais c'est surtout côté Cowboys que ça me pose des questions. Parce que ça tombe pas, les jeunes quarterbacks talentueux, ça pousse pas sur les arbres. Je veux dire, c'est un poste où tellement d'équipes galèrent. Quand on a un... Alors, Prescott a ses défauts, mais je pense personnellement que tu peux espérer des grandes choses avec Prescott. Certes, c'est pas Mahomes, c'est pas Watson, il devrait être bien entouré, mais tu peux espérer des choses avec lui. Comment tu peux pas le prolonger à un moment ? Moi, je comprends pas.
Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas l'orgueil de se dire, on a réussi à le trouver, Prescott, au quatrième tour, est-ce qu'on pourra pas le retrouver ? Et alors que, comme tu as dit, trouver un carrière, c'est caution montagne, pour les gens qui ont la référence. C'est très compliqué, hein, le nombre de ratés est énorme. Donc ouais, je pense qu'il devrait peut-être pas trop réfléchir, partir sur l'argent et tout ça, et puis se solidifier, se sécuriser avec Prescott, et puis voilà. Mais tu vois, je trouve bizarre un mec comme Jerry, c'est bête ce que je veux dire, un mec comme Jerry Jones, qui est comme un as des affaires, hein, dans son domaine, donc l'hôtellerie et tout ça aux États-Unis, d'autres business, le voir appréhender ça de cette façon, je trouve que c'est pas gage de vraie connaissance du marché et tout ça. Donc je comprends pas trop, en fait, ce qui se passe depuis quelques mois sur ce dossier.
Surtout quand il y a un truc que je trouve extrêmement paradoxal par rapport à ça, c'est que On a fait des épisodes draft, etc. Tu draftes Sidi, tu crées une attaque digne du Real des Galactiques, et de l'autre, tu laisses cette incertitude au poste de quarterback. C'est... Mm. Bref, on va arrêter là-dessus, mais moi, ça me pose des réelles questions et je comprends pas, en fait. Honnêtement, je comprends pas. On va enchaîner. Alors, Alan, est-ce qu'on part direct sur le sujet un peu polémique du running back signé ?
Je suis un grand polémiste.
D'accord, allez, Derrick Henry. Derrick Henry a été prolongé par les... j'adore ce débat. Honnêtement, je suis comme un fou là, parce que je sais qu'Alan, c'est un running back qui a été prolongé. Je peux vous dire que là, je sens que ça va être un grand moment de podcast. Donc, Derrick Henry a été prolongé pour 4 ans de la part des Tennessee Titans, qui avait déjà, il faut le rappeler, prolongé Ryan Tannehill dans cette même intersaison. 50 millions pour lui. Alan, allez, je te laisse le champ libre. Dis-moi que c'est n'importe quoi de payer un running back 50 millions en 2020.
Ah oui, c'est n'importe quoi. C'est ahurissant. Mais juste, déjà, c'est pas vraiment ça. Tu sais, en fait, les contrats NFL, j'écoutais ça. Moi, je suis pas capable de trop le dire, mais j'écoutais ça dans un podcast. Je crois que c'est Mike Lombardi, l'ancien GM des Browns, tout ça, qui disait qu'en gros, il voit ça, lui, c'est un contrat de 2 ans, en fait. Il voit ça surtout comme un contrat de 2 ans, en fait. C'est un contrat de 2 ans. Donc, c'est pas 4 ans, déjà. Déjà, ça va.
Déjà, il sera pas signé jusqu'à 32 ans. On est rassuré.
Voilà, exactement. Après, en fait, moi, je vois ça par le prisme du fait que pour moi, c'est pas Derrick Henry qui a permis aux Titans de faire, c'est terrible, de faire leur boot, leur grosse fin de saison, leur run de playoff, peut-être. Mais s'ils ont été en playoff, c'est pas grâce à Derrick Henry. Ok, il est rushing champion et tout, mais c'est grâce à Tannehill.
Sur les dernières semaines, il marche sur l'eau quand même.
Ouais, mais parce que Tannehill est tellement fort que t'es obligé de repousser tout le monde et donc qu'il a des 1 contre 1 avec une grosse ligne qui était propice au jeu au sol. Je dis pas que tous les running backs auraient fait un chantier pareil. Mais, tu vois, t'as dit dans l'intro top 5, moi pour moi il est pas top 5. Déjà. Parce qu'il est pas à la passe, c'est pas un très bon attrapeur de ballon, Derrick Henry. C'est un monstre avec la balle en main. Mais je vais être un peu dur, hein, mais pour moi, ouais, c'est pas un top 5 running back. Et donc, je me dis, j'aurais fait ce que je conseille à d'autres franchises de faire, c'est d'en drafter un autre. Et puis, t'as pas utilisé Derrick Henry. Tu le tag limite si tu penses que vraiment t'as un gros truc à jouer cette année. Mais après, tu dis ciao parce que le nombre de... Aucun running back qui a signé l'extension n'a vraiment prouvé l'année après ou que c'était qu'il en était garant aussi parce qu'en fait, et c'est surtout ça, le running back est trop dépendant du contexte extérieur. Todd Gurley était super fort avec une super ligne. Quand la ligne était un peu moins forte, c'était un peu plus problématique. En plus, il s'est blessé. Zeke, c'est un peu pareil avec les blessures. Derrick Henry, pour moi, était très dépendant du fait que Tannehill était tellement fort que on jouait beaucoup pour stopper la passe et l'émergence d'AJ Brown, Corey Davis de l'autre côté, et donc il se retrouvait avec une très bonne ligne offensive contre la course et des match-ups favorables avec une boîte moins dense en population. Donc voilà, je me dis, et en même temps je dis ça, je dois aussi avouer que ce soit contre les Patriots ou contre les Ravens, quand la boîte a été plus densifiée,
merci,
il a fait du dégât, il a quand même fait du dégât. Je pense qu'il a été, il a nagé sur l'eau sur quelques semaines, avec aussi Tannehill qui faisait qu'il avait une attaque un peu plus ouverte. Mais voilà, j'aurais pas donné tout cet argent, voilà, tout simplement.
Alors, j'avais 2 points sur lesquels je voulais absolument réagir. Je voulais déjà réagir sur ça. Je te trouve un peu dur quand tu dis, AJ Brown, etc. Il y a eu du côté de l'attaque aérienne des Titans, il y a eu une très forte fin de saison, hein, qui fait que selon moi, déjà, première take, le contrat de Tannehill pose plus de questions que celui de Derrick Henry, je glisse juste ça comme ça. Selon moi, Henry reste quand même, enfin c'est le l'œuf ou la poule, hein, mais je reste persuadé que le jeu de course du côté des Titans de Mike Vrabel, c'est la clé de voûte, c'est plus important que le jeu de passe en fait. Et deuxième chose à laquelle je voulais réagir, je te trouve très dur quand tu dis, alors on n'aime pas trop faire ça, mais je te trouve dur quand tu dis que Derrick Henry, c'est pas un top 5 running back en fait. Parce que j'ai du mal à voir. Il a la production. Beaucoup de gens disent « Ah, mais il a eu une grosse fin de saison. » Mais en fait, quand tu regardes les stats avancées, je lisais un article là-dessus, en gros, c'est juste une question de volume. D'un point de vue statistique avancé, ça a toujours été un top 10 running back sur les statistiques avancées. Et l'année dernière, il a eu pour lui le volume qu'il n'avait pas sur les saisons d'avant. C'est un mec qui fait toujours plus de 4 yards par course. Et où l'année dernière, c'est devenu, c'était à un moment, c'était un sketch où il devait être à plus de 6 à un moment. Je trouve quand même que c'est un joueur dominant à sa position. C'est peut-être pas McCaffrey, mais j'estime quand même que pour une équipe qui veut se baser sur le run et sur une approche un peu old school à l'ancienne, payer son running back sur 2 ans, c'est pas fou. Pour moi, c'est pas fou. C'est pas Le'Veon Bell, par exemple. Parce qu'en plus, t'as les fondations. Tu vois, tu parlais de cette équipe qui avait fait ce run. Alors peut-être qu'elle sera pas aussi forte qu'elle l'a été en janvier dernier, mais c'est la même équipe. Les receveurs sont là, Tannehill revient. Globalement, alors il y a eu des pertes au niveau des tackles, on en avait parlé.
Plus Conklin, ouais.
Mais globalement, c'est le cœur de l'équipe reste le même. Donc, c'est pas fou de... Enfin, on change pas une équipe qui gagne, quoi.
Mais est-ce que le cœur de l'équipe reste le même? Mais est-ce que tu penses qu'ils seront encore sur cette aura de fin de saison, quoi? T'avais l'impression qu'ils pouvaient rien leur arriver.
Je pense peut-être. On en a déjà parlé, je pense pas. Honnêtement, je suis pas fou, je pense pas. Mais je pense que ça peut toujours être une équipe qui fait les playoffs et qui peut faire des coups. Le haut de l'AFC, on l'a dit, avec les Chiefs, semble assez difficile à les conquérir. Il y a aussi la question des Ravens. Mais je pense que c'est pas fou de parier sur tes forces, en fait. Parce que tu vois, si... Allez, ils adoptent ta technique. Ils payent pas Henry, ils le laissent partir dans une autre équipe. Alors certes, tu peux faire produire des running backs du 3e tour, mais bien souvent, tu les fais produire comme un titulaire moyen, voire un peu en dessous de la moyenne. Henry, il avait la production d'un top 3 running back l'année dernière.
Ouais.
C'est difficile à remplacer, ça.
Je suis d'accord. Mais pour moi, c'était lié vraiment au contexte qui l'aidait. Du fait qu'il...
Ouais, je vois.
Grosse ligne pour le sol. Contre la passe, elle n'est pas exceptionnelle. Mais grosse ligne où ils ont investi, en plus, un des premiers tours, ils ont payé Saffold, tout ça, donc grosse ligne. Et en fait, vraiment, moi, je voyais ça comme ça. Je trouvais que plus la saison avançait, plus le fait que tellement Tannehill nageait sur l'eau, tu ne pouvais pas le défendre comme avant. Et donc, ça permettait vraiment de bons match-up pour le jeu de course. Moi, j'ai vraiment hâte de voir si Tannehill redescend un petit peu sur terre. Parce que je pense que Tannehill était peut-être sous-côté à Miami. Moi, je trouvais contre les Patriots, c'était souvent des bonnes choses quand on jouait contre eux. Il a été sur un nuage dans la fin de saison. En playoff, bon, il a pas eu à lancer la balle. Non, sérieux, hein. Contre les Patriots, contre les Ravens. Enfin, il lance un touchdown chaque fois, mais il lance 10 passes à peu près parce qu'Henry était exceptionnel. La défense aussi des bonnes positions. Je pense qu'il y a eu un tout qui a fait que tout était propice au fait que voilà, Henry, du froid, des défenses qui manquaient des tacles, manquaient des choses comme ça, fatigué contre un running back puissant, grand comme ça. Moi, j'ai juste peur que voilà, si jamais il y a plus de monde pour le défendre, on l'attend plus, qu'il soit un petit peu moins utile. Puis moi, voilà, sur les running backs, c'est vrai que je préfère des Dalvin Cook, Nick Chubb, McCaffrey, Kamara.
Tu penses que Dalvin Cook est meilleur que Derek Henry?
Ouais, je pense, ouais.
Tu vois, je pense que c'est là où on est différent. Je pense que peut-être que je suis traumatisé par le match de playoff où il a écrasé les Ravens, mais je pense vraiment que Derek Henry est un top 5 running back. Alors peut-être que c'est moins polyvalent que les mecs que t'as cités, qui peuvent, eux, sont très forts pour réceptionner, qui sont pratiquement des receveurs slash running back. Mais j'estime que Henry est un morphotype et un prototype tellement unique qu'il est extrêmement dangereux. Et juste, je te laisserai enchaîner après. Je pense aussi, je suis peut-être plus positif que toi et moins pessimiste. C'est aussi parce que je trouve que même quand c'était Mariota, il y avait quelque chose avec Henry. Ça restait un running back dominant, c'est peut-être un peu fort, mais certes, il n'était pas aussi étincelant qu'il l'a pu être en fin de saison en 2019 et puis au playoff 2020, mais c'était un mec dangereux à jouer et ça a explosé parce qu'il a enfin eu un quarterback qui était décent. Donc je pense qu'on peut... moi, je serais très étonné que l'année prochaine, Derek Henry soit pas un top 8, top 7 running back.
Ouais, ouais. Non, je suis d'accord. Ça a toujours été un fort joueur. Ça a toujours été un fort joueur, comme tu as dit. Il était souvent dans un backfield par comité. Donc, il n'avait pas toujours le volume, comme tu as dit, ce qui pouvait le sous-coter un peu. Mais, ouais. Non, c'est vrai que je préfère que mes running backs soient très versatiles. Pas juste pour dire, ah, il attrape le ballon, mais pour qu'en gros, la défense soit prête aux deux options. C'est vrai que. Quand Henry est sur le terrain, c'est vraiment du course play action. Après, il faut dire ce qu'il y a. Ça a marché.
C'est ça, Alan. C'est un débat plus grand, là, que c'est une porte. C'est même pas une porte. C'est une porte de Paris du 13e siècle que j'ouvre, là. Mais c'est. Est-ce que, avec ces running backs slash receveurs, les McCaffrey, ce qu'avaient pu être les Von Bell à un moment, les défenses se sont pas tellement adaptées avec des linebackers qui sont toujours plus petits, toujours plus rapides, que la nouvelle solution, c'est pas un mec d'un mètre 90 qui en fait est impossible à tacler pour les petits linebackers. C'est en gros ce qu'on a vu dans les playoffs, c'est-à-dire que quand tu mets, je vais parler des Ravens, quand tu mets le corps de linebacker des Ravens de l'année dernière contre Henry, ils peuvent pas le tacler. Et du coup, toute la pression est mise sur la ligne défensive. Et une fois que Henry passe la ligne défensive et il a su le faire parce que il avait une bonne ligne offensive, tu dois mettre 2-3 mecs dessus.
Ouais, exactement. Les packages des Patriots aussi sont connus pour ça. Hein, où on joue avec 6-7 DB et ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas pu marcher contre Henry. Même si, voilà, c'est vrai que nous, ils nous mettent 14 points. Donc, moi, en gros, tu vois, qu'ils me prennent 140 yards d'Henry, ça m'allait. Tu vois, parce que on aurait dû gagner le match offensivement là où le match contre les Ravens, c'est un peu plus bizarre dans l'établissement du match. Je sais pas, on verra, mais c'est. Moi, puis je regarde l'historique aussi. L'historique des running backs prolongés, payés cher et pas excellent.
Ah, il est pas en ma faveur.
Après, Henry a pas le même profil que les autres, faut le dire aussi.
C'est ça, mais c'est... Beaucoup, je te coupe, mais c'est vrai que beaucoup des payés très grassement récemment ressemblent au profil dont tu parlais en fait. Des mecs peut-être un peu plus fragiles.
Des mecs plus complets, plus fragiles. Et faut aussi faire son autocritique et dire et mettre beaucoup de nuances dans ses propos. Ça a marché, tu vois, quand Henry était sur le terrain, on savait que c'était course ou play action. Ça a marché aussi le run des Patriots de 2018 avec Michel. Où Michel était sur le terrain, c'était course ou play action. White était sur le terrain, c'était passe. Et ça marchait quand même parce qu'il y avait une très bonne exécution. Donc ça peut marcher, ça peut vraiment marcher. Là où, comme tu as dit, voilà, Dalvin Cook. Moi, je préfère aller Dalvin Cook, Saquon, Nick Chubb, Kamara, tout ça. C'est vrai que c'est des attaques qui ont parfois patiné à certains moments. Alors que pour moi, ces joueurs-là sont meilleurs que Derrick Henry. Donc il n'y a pas que la valeur du joueur, il y a aussi ce qu'il peut apporter pré-snap et tout ça. Donc c'est bien plus complexe qu'un simple débat. Mais c'est vrai que moi, j'aurais peut-être pas. Je reste sur ma position, j'aurais pas donné le contrat. Ça m'a beaucoup intéressé de voir la production de Derrick Henry de prochaine saison, voilà, vraiment. Parce que Todd Gurley, Zeke, Le'Veon Bell, et c'est aussi pas de leur faute à eux ces joueurs-là souvent. C'est l'environnement, les blessures. Donc il n'y a pas que ça qui joue en fait.
Là, on se rejoint, c'est que le running back est très dépendant en fait. Mais je me demande si le prototype de joueur qu'est Henry le rend pas moins dépendant du reste de l'environnement. Parce que tu vois, quand t'as un running back très polyvalent, que ça soit un running back ou un receveur, techniquement, s'il doit attraper une balle, il est toujours dépendant du rendement de la ligne, du rendement du quarterback en fait. Et je pense que ces types de joueurs-là sont peut-être un peu plus dépendants de leur environnement qu'un running back à l'ancienne, à la Henry, où en fait, lui, il dépend un peu juste de ce que fait sa ligne et parfois de l'intérieur de la ligne. Donc... Ouais.
Ça, c'est dépendant, mais c'est aussi, tu vois, c'est dépendant quand il a le ballon ou pas, mais dépendant aussi, moi, le running back, comment réagit la défense quand il est sur le terrain. Parce que quand il y a Henry, ça a pu marcher. Je pense que l'année prochaine, ça ne m'étonnerait pas de voir des gros packages quand il y aura Henry sur le terrain. Et là, si tu peux mettre de la play action à fond, comme ils arrivaient à faire, et tout ça, là, ça pourra fonctionner. Il faut juste, pas qu'il se blesse et pas qu'il y ait une ligne moins bonne que l'an passé, parce que là, ça sera plus problématique.
Et puis, alors on dit, certes, c'est pas McCaffrey, Henry, mais il peut quand même capter des balles par-ci, par-là aussi. Donc, il faut pas oublier. Mais moi, je pense qu'il peut réussir. Puis, J'ai, alors c'est peut-être personnel, mais j'ai toujours de l'attirance pour ces joueurs qui sortent totalement des normes. C'est-à-dire que.
Du moule, ouais.
Ouais, lui, un running back comme ça, on n'en voit pas souvent. Et ça me faisait marrer parce qu'en préparant l'émission, je repensais à sa draft. Et c'est vrai que pendant sa draft, beaucoup expliquaient que ça marcherait jamais, Henry, parce qu'il ouais. est trop grand, pas assez rapide, etc. Et en l'occurrence, ça marche. Et peut-être dernier petit point, il y a aussi l'aspect. Protection du quarterback. Enfin, je veux dire, c'est comme avoir un tight end qui protège supplémentaire.
Ouais. Et c'est très important.
Et c'est super intéressant, tu vois. Donc, à voir. On va vous laisser réagir sur les.
C'est un truc vraiment sous-côté, hein, dans les mecs qui parlent des running back. Il y a des coachs qui, pour eux, le plus important, c'est pas courir ou attraper, c'est bloquer. Hein.
Et sans être méchant, McCaffrey, Henry, je prends Henry sur la protection, tu
oui,
vois.
Oui, donc, totalement.
Donc, à voir à ce niveau-là, on vous laissera réagir si vous avez quelque chose à dire sur notre compte Twitter qui croule sous les tweets, je pense que c'est le bon terme. On va finir avec les pass rushers. Tu me l'avais dit, Alan, avant de commencer à enregistrer, des gros noms quand même. Parce que là, ouais. on est, quoi qu'on en dise, on est que sur des jeunes talents et des top 5 voire top 10 à leur position à chaque fois.
Ouais, c'est clair.
Et on va finir avec les pass rushers. Miles Garrett, Joey Bosa. Non, on va commencer par le plus ancien chronologiquement. Miles Garrett, 5 ans, 125 millions de dollars. Avec, alors, il y a toujours la question de garantie. Alors, il y a 50 millions garantis à la signature et 100 millions garantis pour le reste. Et puis, sachant que c'est toujours une question de record, Joey Bosa est venu dépasser ça d'un tout petit peu après, puisqu'il a 102 millions garantis pour un contrat de 5 ans et 135 millions de son côté. Alan, allez, je continue dans les questions polémiques parce que j'ai fait que ça depuis le début. Est-ce que les Browns ont fait une bonne affaire ?
Je dirais... Est-ce qu'ils n'étaient pas obligés ? Est-ce que les deux équipes, là, n'étaient pas obligées vu la position de draft des deux ?
Un peu beaucoup, je pense.
Un peu beaucoup. Garrett, monstre physique, très fort joueur. Bon, qui a un peu pété les plombs hein. en novembre, dans ce match du jeudi soir que je me rappelle avoir vu en direct, irréel. Mais tu vois, c'est bizarre, mais je pense que Garrett aura plus un avis que moi. J'ai plus un avis sur Bosa, personnellement.
Ah, bah Garrett, vas-y.
Bosa, pour moi, il est devenu sous-coté à cause de son frère. Et peut-être à cause des résultats des Chargers. C'est un énorme joueur, Joey Bosa. Franchement, versatile. Je ne sais pas si ça se dit en français, je crois. Tu peux le mettre à l'intérieur, à l'extérieur de la ligne. C'est un des meilleurs joueurs. On le savait au moment de sa draft. On le sait maintenant, c'est un excellent joueur. Et je pense que c'est un bon contrat pour les Chargers, qui se font une défense quand même... que moi je trouve hyper hyper intéressante. Garrett, je l'ai un peu moins vu jouer que toi, je pense. Je pense que c'est un énorme talent. Il est encore un peu brut, mais tu paries sur le fait que tu vas le cadrer.
Tu vois, par rapport à ça sur Garrett, si il est brut, ça me fait très peur parce que je pense que c'est probablement le meilleur pass rusher qu'ont vu les Ravens l'année dernière, peut-être. Ou en tout cas, il est. Enfin, alors on n'est pas comme ces journalistes qui ont le temps de décortiquer chacun des pass rushers de toutes les équipes, mais Garrett est selon moi un joueur
mieux que TJ Watt.
Pas le même style.
Ouais, pas le même style, pas le même style.
Je pense que en gros sur Madden, Garrett a un meilleur potentiel que TJ Watt. Je personnellement, je pense que Garrett est meilleur que TJ Watt. Mais même si TJ Watt est un c'est super cette division quand même avec TJ Watt et Miles Garrett. Non, pour moi, si j'ai un peu posé cette question, parce que je dois l'avouer, quand j'ai eu ma petite alerte sur mon smartphone d'Adam Schefter, la signature, je me suis dit, c'est pas un peu beaucoup pour Bosa. Et c'est vrai que je pense que je rentre parfaitement dans le portrait que tu as dressé, c'est que peut-être à cause de Nick, à cause des Chargers, je sous-estime peut-être ce joueur qui a un super pass rusher extrêmement complet, c'est Daniel Jeremiah de NFL Network qui le disait, qu'en gros il a toute la panoplie, il est bon contre le run, c'est un excellent pass rusher, etc. Il est apprécié de ses coéquipiers et tutti quanti, mais je prends quand même Garrett au-dessus. Et pour moi, Garrett, je serais pas étonné que l'année prochaine, cette année, enfin, même si bon, c'est pas ce qui va se passer avec la NFL cette année, Garrett soit le meilleur. Alors, c'est difficile de dire pass rusher, on va dire edge le meilleur edge de la NFL.
Ah ouais, il y avait des mecs qui avaient dit Garrett peut être joueur défensif de l'année.
Il était sur le début de saison, il était je l'ai trouvé incroyable. Enfin, je l'ai vraiment trouvé incroyable. Après, enfin, je dis meilleur edge, Aaron Donald joue parfois sur le côté de la ligne, donc bref, on va pas rentrer dans le débat. De toute façon, dès que c'est un débat un joueur contre Aaron Donald, la réponse c'est Aaron Donald. Enfin,
exactement.
C'est toujours ça. Pour moi, Garrett est genre le futur à sa position après, c'est le successeur de Von Miller. Enfin, je le tiens vraiment très haut dans mon estime. Donc, peut-être en comparaison, j'estime que c'est une bonne affaire sans faire un jour à Joey Bosa, bien sûr.
Ah ouais. Ouais, c'est vrai que moi, j'ai. Garrett, je le vois moins, je le vois plus que beaucoup de flash, mais c'est vrai que l'année passée, sur les 7-8 premiers matchs, il est vraiment, vraiment fort. Là où Bosa, je trouve extrêmement consistant année après année. J'aime cette consistance en fait. J'ai lui qui fait qu'il. Je sais ce qu'il va m'apporter et il va me l'apporter à très haut niveau. C'est un niveau. Si jamais les Chargers gagnent beaucoup de matchs, il peut être all-pro, tu vois. Je pense. Hein, donc pour moi, c'est deux bonnes extensions sur des postes où, bah voilà, il en faut. Alors c'est tactique et tu préfères payer quoi? Bah, les deux équipes ont drafté bah, Garrett numéro 1, Bosa dans le top 5. Il a fallu le payer. Et donc c'est deux signatures que je trouve normales pour des futurs stars de la ligue, hein, s'ils ne le sont pas déjà.
Ils y sont, je pense. Ils ne sont peut-être pas vus, je dirais, dans le grand public avec un très grand.
Ils ne sont pas la Khalil Mack encore, Von Miller, tu vois. Mais
même si pour moi, enfin. Alors, je vais peut-être blasphémer. À l'instant T, je prends Miles Garrett au-dessus de Khalil Mack. Surtout sur la dernière saison qu'on a vue.
Ok.
Sans faire un jour à Khalil Mack, hein, que c'est un joueur que j'adore, mais je pense vraiment que pour moi, Miles Garrett peut être le meilleur pass rusher NFL en 2020, donc 2021. Donc, payer ce mec-là et avoir déjà. Le fait qu'il ne soit pas déjà le plus payé à sa position. Je trouve ça extrêmement intéressant. Encore une fois, je critique pas Joey Bosa, mais peut-être aussi que Joey Bosa, il paye un peu son début de carrière NFL avec ce hold-out, etc. Il y a peut-être de ça aussi, hein, peut-être en arrière-plan, mais c'est sûr qu'on est sur deux joueurs de très très haut niveau. Mais je pense que ce débat aurait plus eu lieu s'il n'y avait pas eu le pétage de plomb dont tu as parlé de Garrett.
Oui.
Parce que sans pétage de plomb,
la saison de Garrett.
Garrett, il est. Alors, il y a Shaquille Barrett qui fait une saison sur Alice, mais il est pas loin d'être meilleur sackeur de la ligue. C'est quand même des titres qui pèsent, etc. Donc, je pense qu'il était pas. Il est pas loin. Enfin, en tout cas.
C'est ça. Garrett, pas titre ça, et Bosa, pas titre Nick. On peut dire ce qu'on veut, hein, mais Nick est tellement fort, il a joué le Super Bowl. Donc.
Rookie de l'année, Super Bowl. Enfin, tout le monde dit qu'il est incroyable. Donc, ouais, c'est. C'est compliqué d'avoir un frère comme ça. Après, quelle famille quand même, parce qu'avoir deux des quoi, des cinq meilleurs edge de la NFL. Je dis depuis le début de l'épisode qu'on n'aime pas faire de classement, mais je n'arrête pas de faire des classements dans cet épisode. Donc bon, c'est un peu dur, mais ouais, c'est en tout cas ce qu'on peut dire pour les Browns comme pour les Chargers. Bonne nouvelle, parce que c'est pas des franchises très heureuses sur les dernières années, donc bonne nouvelle c'est d'avoir sécurisé deux talents. Et on peut voir que du coup, je n'ai pas une haine viscérale des Browns, parce que j'admets que Garrett est incroyable. C'est vrai. Enfin,
tu as fait preuve de justesse.
On va conclure là-dessus, Alan, je pense, alors qu'on s'approche de l'heure d'enregistrement. Est-ce que tu as quelque chose à dire? On avait l'habitude de finir par un petit point Ravens-Patriots. Allez, je te laisse quelques secondes, quelques minutes, comme tu veux, sur les Patriots. Alors, à chaque fois que j'ai une alerte Patriots ou que je vois un truc qui se passe du côté des Patriots, c'est un joueur qui refuse, qui ne va pas jouer cette année. Alan, la question, c'est quoi le plan de Bill?
Ça te fait rire, ça. Mais il n'y a pas de plan. Enfin, je pense qu'il faut arrêter de penser que Bill, c'est un ayatollah qui contrôle la vie des joueurs et tout ça. Hein. Mais... ouais, donc c'est ça, côté Patriots, bah, trois gros noms quand même qui vont pas jouer l'année prochaine. Hightower surtout. Surtout Hightower important parce que plus de Van Noy et plus de Collins. Patrick Chung, le safety. Et puis Marcus Cannon, le tackle droit qui avait eu un cancer au lycée. Donc je pense qu'en termes de santé, voilà, c'est. Il y a aussi beaucoup de joueurs qui ont eu un bébé récemment. Ça joue dans le fait qu'ils veulent pas jouer.
Je te coupe juste, c'est vrai que Cannon, il y a certains joueurs NFL qui... Alors, la NFL a sorti un communiqué de presse en expliquant que si certains joueurs remplissent certains critères, je sais pas, maladie pulmonaire, etc., eux, ils peuvent dire non avec moins de pénalité, dira-t-on, que les autres. Donc exactement. C'est peut-être l'intérêt. Ouais.
Exactement. Il y a d'autres joueurs, un petit peu moins, des joueurs que voilà, la Pass Nation aime beaucoup, mais qui sont pas très connus ailleurs. Mais ouais, on va voir. Hein. Je pense que ça va permettre à peut-être des jeunes d'avoir plus de temps de jeu. Ça pose quand même question parce que on aurait aimé, voilà, potentiellement avoir tout notre effectif avec un Cam Newton, ça aurait été super. Mais je pense que ça change pas énormément de choses. C'est pas parce qu'il y a Hightower, Chang et qui joue pas que ça va tanker ou c'est pas qu'on va être moins bon en AFC. Je pense pas. C'est des joueurs importants, c'est clair. Si demain tu me dis que McCourty joue pas et que Cam joue pas, là oui, ok. Et Edelman. Mais je pense que j'ai toujours les mêmes attentes envers l'équipe et ça va permettre à d'autres joueurs, des rookies, des joueurs un peu moins d'expérience de jouer parce qu'il faut quand même voilà qu'on forme les prochains joueurs de la prochaine dynastie Patriots. Il y a beaucoup de jeunes. Donc, il y a beaucoup de vieux, pardon, tu vois, le lapsus, beaucoup de vieux. Et donc, voilà, Patrick Chung, c'est un safety, ça fait 10 ans qu'il est là. Ben voilà, est-ce qu'on peut, on a drafté en deuxième tour, est-ce qu'on lui donne du temps de jeu cette année, ça peut être bien. Et Hightower aussi, on a drafté trois linebackers, ben voilà, il y en a d'autres qui sont dans le moule, potentiellement pour donner du temps de jeu, c'est des joueurs importants. Ça, c'est une perte vocale et en termes de productivité, de production. Mais je suis pas inquiet plus que ça. Voilà, s'il y a une saison encore, parce qu'on en a parlé.
T'as parlé, juste avant d'enchaîner, t'as parlé des objectifs côté Patriots, les tiens restent les mêmes, parce que oui, Alan fait partie du staff des Patriots de Bill Belichick. c'est quoi concrètement les objectifs de ton côté ?
Gagner la division et puis essayer voilà, d'aller embêter soit les Ravens, soit les Chiefs sur un match AFC. Tout ça, si Cam Newton est notre starter et qu'il joue... trois quarts de la saison en tant que titulaire. Voilà.
Okay,
si c'est Stidham, on se contentera de gagner la division.
Ok, on voit toujours hein, la petite rivalité avec les Bills. Hein, Alan a toujours ça en travers de la gorge. On ne lui vole pas sa division. Hein, c'est sa division.
J'ai toujours connu ça de mon vivant, c'est la mienne. Ah, okay. Je ne la rendrai pas.
Côté Ravens, rien d'exceptionnel à dire. Le jour où on enregistre, les joueurs reviennent au camp d'entraînement. Rien de bien à dire. Parce que Lamar Jackson a vraiment l'air de forcer pour que Antonio Brown... intègre l'effectif.
Ah oui.
Dieu merci, la NFL l'a suspendu 8 matchs, mais ouais. Dans quelques semaines, j'aurai à nouveau peur, pour être honnête. Non, à part ça, quelque chose d'extrêmement marrant, c'est que du coup, pour ceux qui suivent la NFL, Lamar Jackson a eu le titre, la place numéro
top
1
100, ouais.
Du top 100 NFL. Je trouvais ça marrant à comparer avec un The Athletic qui avait fait un article avec 50... dirigeant, coach, etc., NFL, et où Lamar Jackson se trouvait 7e, en fait. Et on voit, en fait, je pense, cette différence, cette mot magnifique, cette dichotomie entre peut-être comment voient les joueurs NFL Lamar Jackson, et peut-être comment voient certains front office Lamar Jackson. Et je trouve ça intéressant. Je dis pas que Lamar Jackson est le meilleur joueur NFL. En fait, pour moi, la vérité se situe peut-être quelque chose entre, au milieu. Il y a, je pense, toujours un espèce de clash philosophique entre ceux qui acceptent le quarterback comme Lamar Jackson et ceux qui pensent que c'est toujours une façon bâtarde, si je puis dire, de jouer la position.
Jouer la position, ouais. Ouais, j'allais dire ça. Ouais, c'est trop, trop intéressant de voir comment l'avis des joueurs, c'est pas le même que l'avis des front office. Espèce de respect qu'il y a entre joueurs pour certains gars, ce que font certains, puis d'autres front office qui peuvent se penser plus intelligents, plus... Je suis pareil que toi, je mets pas du tout Lamar Jackson le meilleur joueur NFL, hein. mais c'est pas le 7e. Si on doit pas... En plus, c'est ça, si c'est sur la saison passée, il est pas 7e meilleur joueur, quoi.
C'était que chez les quarterbacks, en plus, là.
Enfin, ah oui, 7e quarterback. Ah oui, c'est pas pareil.
7e quarterback, Tom Brady était devant.
Ah là là, la vieille garde.
Alors, je vais faire quelque chose de pas du tout radiophonique, c'est que je vais essayer de te trouver l'article pendant qu'on enregistre. Hein. C'est pas
ouais,
bien
mais je crois que j'ai pas vu l'article. Il y a Drew Brees et Brady devant Jackson.
Je pense que c'est ça, en fait. C'était un article de The Athletic qui, en fait, classait les joueurs selon des tiers, en fait. L'idée, c'était de les classer comme ça. Et... En l'occurrence, Mahomes était dans le tiers numéro 1. En gros, les tiers numéro 1, c'est les superstars. Wilson était aussi dans le tiers numéro 1. Et en l'occurrence, bah, je descendais en fait cette liste et je me disais, mais où va atterrir Lamar Jackson? Donc j'ai réussi à le trouver après avoir grillé quelques minutes, expérience radiophonique. Tiers numéro 1, donc groupe numéro 1, Mahomes, bien sûr, unanimité. Wilson, unanimité. Tu parlais de la vieille garde. Rodgers en 3, celle-ci, on peut discuter là-dessus. Drew Brees, 4e.
Watson.
Deshaun, 5e. Ouais. Ensuite, on change de groupe. On vient en groupe 2, c'est-à-dire un joueur, selon les termes du classement, je traduis en direct, un quarterback numéro 2 peut porter son équipe parfois, mais il n'est pas vraiment constant. Et il a un ou deux trous dans son jeu. Donc, Brady est devant Lamar Jackson. Et ensuite, on voit Lamar Jackson arriver 7e, tu vois. 7e meilleur quarterback. Enfin, c'est des questions qui se posent. Encore une fois, je ne fais pas mon fanboy Ravens. Je dis juste que je trouve la discussion... Le fait qu'on aurait eu cette discussion en 2019 à l'été, je trouve ça fascinant qu'on l'ait encore en 2020.
Mmh. Ouais.
Sachant que le mec derrière, si tu veux vraiment parler de la persistance des traditions, c'est quand même Ben Roethlisberger qui...
Là,
on va croire que je retombe dans des travers de haters des Steelers. Je trouve Ben Roethlisberger... évalué souvent de façon bien avec beaucoup de complaisance de la part de beaucoup des évaluateurs, parce que je trouve pas qu'il ait prouvé récemment, en plus des blessures, que c'était un joueur qui pouvait se...
Ah mais je pense que t'as une vieille garde de front office qui dirait qu'il préfère avoir Stafford, Matt Ryan, Big Ben que Lamar, hein.
Stafford, alors je veux pas rentrer dans la hype de Allen PFF, Stafford je peux comprendre, mais c'est vrai que Allen, Ryan, enfin bref, débat éternel. J'avais dit on s'approche de l'heure, bah là on l'a explosé l'heure, donc on va conclure là-dessus cet épisode numéro 7 au retour des vacances du Safety. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous suivre sur la plateforme de podcast où vous suivez le Safety. Encore une fois, petite question technique, on va peut-être faire des petits changements de flux, etc. Donc n'hésitez pas à nous taguer @leSafetyPodcast pour nous dire si vous avez eu des problèmes pour accéder au podcast cette semaine. On va essayer de faire ce travail de notre côté. Alan, j'ai eu une alerte. Je pense que PFF a ressorti un article, donc je te laisse courir pour aller le lire.
Image de mec sans vie sociale.
Et puis, non, il n'est pas du tout comme ça. Il va attendre le matin devant son petit chocolat chaud et son replay du match des Celtics pour le faire. Et nous, du coup, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode du Safety. Bonne semaine, salut.
Salut.